Vous êtes sur RTL.
Thomas Soto,
RTL Soir jusqu'à 20h.
Le monde tel qu'il est.
Le monde tel qu'il est, on regarde la société évoluer et vivre telle qu'elle est en se basant sur vos expériences, sur votre vie, sur votre vécu, sur votre ressenti. On en parle ce soir avec vous, Benoît Serre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de l'ANDRH, alors ça veut dire l'Association Nationale des DRH, mais votre boulot c'est d'accompagner les entreprises dans leur stratégie RH et sociale, autrement dit, c'est vous qui les aidez à faire les plans sociaux.
Hein, on peut... J'ai été DRH longtemps.
Et on peut dire ça comme ça. Nous sommes en ligne avec Jean-Luc Ruquebuche. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous travaillez-vous à l'usine de Bridge à Béthune et vous êtes secrétaire syndical CGT là-bas avec...
Oui. Ah non, je suis RS, le responsable syndical, je ne suis pas le secrétaire.
Pardon, responsable syndical, pardon.
Ouais.
Mais vous travaillez à l'usine Brichonne de Béthune. Avec nous également Sandrine Charbonnier, bonsoir madame.
Charbonnet,
bah, décidément, c'est pas ma soirée. Vous êtes bien salarié chez TUI France, le voyagiste, ça fait 28 ans que vous êtes là-bas et vous avez manifesté hein, vous cet après-midi, manifestation notamment contre les plans sociaux. Et puis avec nous, Jean-Christophe Alquier, notre communicant fondateur d'Alquier Communication. Bonsoir à vous Jean-Christophe.
Bonsoir Thomas.
Le mot du jour.
Le mot du jour, c'est licenciement avec ces annonces de plans sociaux, de plans d'économie, de restructuration d'entreprises qui s'enchaînent. Et on n'a rien vu, nous dit-on, le mois de janvier s'annonce très difficile notamment. Dernier exemple en date, on en a beaucoup parlé, c'est cette fermeture annoncée de l'usine de Bridgestone à Béthune avec ses 863 salariés qui devraient perdre leur emploi. Et on a eu droit au concert un peu classique des politiques qui s'insurgent.
Une décision révoltante avec une méthode révoltante et des conséquences révoltante.
On a eu affaire à des menteurs. C'est un assassinat prévu de longue date. Et les gens, c'est pas des Kleenex.
Ces multinationales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fauves.
Et ça, c'est juste inacceptable.
Voilà, on a entendu Monsieur Ruffin pour la France Insoumise, Madame Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Xavier Bertrand, le patron de la région, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Jean-Luc Ruquebuche, vous qui travaillez chez Bridgestone à Béthune, le soutien par les mots, vous l'avez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous, ce soir?
Non, mais enfin, pour revenir à ça, c'est clair que hier on a eu le soutien par les mots, quoi. Je leur ai même dit, j'espère que ça changera pas. Nous, le problème, c'est que depuis dix ans, en fin de compte, on n'a pas arrêté de dire que, il y a eu une mauvaise stratégie, mais c'est une stratégie qui a été mise en place par Bridgestone afin de produire des pneus qui se vendent pas ou très peu, quoi. Mmh. À un moment, on nous a fait faire plus de pneus en 13, 14, 15 pouces. En sachant que, actuellement, les voitures en 13, 14, 15 pouces, il n'y en a presque plus. Et pour être compétitif, comme ils le disent, il faut faire du 17, 18, 19 pouces, quoi. Mmh. Donc, c'est un choix stratégique de Bridgestone, comme dans les autres pneumaticiens. Hein. C'est exactement la même chose. Hein.
Donc, un mauvais choix de politique d'entreprise, en quelque sorte. Sandrine, vous travaillez chez TUI, on le disait tout à l'heure. Vous avez l'ombre d'un plan social au-dessus de la tête, c'est ça? Vous vivez cette angoisse?
Voilà, donc nous, on a été mis au chômage partiel donc à partir du 17 mars. Donc, et le 17 juin, on nous a annoncé en visioconférence, en fait, qu'il y avait un PSE programmé avec deux tiers des effectifs. Donc, les salariés, donc certains étaient en chômage à 100%, donc n'étaient pas connectés ni en lien avec l'entreprise et ont brutalement appris que leur poste était supprimé avec la fermeture donc de l'ensemble des agences, des services quasiment entiers qui disparaissent. Moi, je travaille au service après-voyage et avec une délocalisation des postes au Maroc.
Donc, vous allez perdre votre boulot, vous ne le savez pas encore aujourd'hui?
Moi, je perds mon boulot, oui.
Vous perdez votre boulot.
Aujourd'hui, je perds mon boulot.
Benoît Serre, je me tourne vers vous. On est toujours frappé. Hein. Vous, votre job, je le disais, c'est vraiment de préparer, d'aider les entreprises à préparer ces plans sociaux, ces purges, hein, disent certains. On est frappé par la brutalité, la façon dont ça se passe quasiment à chaque fois.
Non, alors, il y a plusieurs choses. Vous savez, la décision qui est prise au final, sachant que je ne parle ni de Bridgestone ni de TUI, parce que je ne connais pas les dossiers.
Vous n'êtes pas sur ces dossiers-là.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne travaille pas, et comme DRH, vous ne travaillez pas sur le fait que vous allez faire une purge. Ce n'est pas le sujet. Mmh. Vous avez un enjeu, vous avez une réalité économique, stratégique, qui vous conduit à prendre des décisions, qui sont des décisions très difficiles à prendre. Il ne faut pas croire que... D'abord, elles ne sont pas prises de gaieté de cœur, premier point. Et deuxième point, elles ne sont pas prises de manière aléatoire, comme un caprice, elles sont travaillées longtemps. Maintenant, le sujet...
Vous entendez la brutalité, Sandrine?
Non, mais
je voudrais juste prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars. Parce que c'est clair qu'un plan social de 600 personnes, ça sort pas du jour au lendemain. Certainement qu'il y avait une préparation, mais pas d'une aussi grande importance. Cependant, je pense qu'on était tous derrière notre écran le 12 mars lors du discours de notre président, à qui on a fait confiance, puisqu'il nous a quand même dit que nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l'angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte. Et pour nous, en fait, c'est la perte de notre job. Donc c'est ça qui coûte aujourd'hui pour les salariés.
Je comprends très bien. Il ne s'agit absolument pas de...
Je précise une chose, on n'est pas là pour faire votre procès. Vous avez la gentillesse de venir pour nous expliquer comment vous travaillez. C'est important de comprendre.
Je ne le prends pas comme ça. Il y a une sorte de confusion parce que tout va très vite, en fait. On le voit depuis ce matin. Il y a des déclarations dans tous les sens, plus ou moins intelligentes d'ailleurs, qui sont faites. Or, le sujet, c'est qu'il y a une décision d'entreprise qui a des conséquences sur l'emploi. Ça, c'est un fait. Maintenant, le travail que va faire la DRH, que vont faire les dirigeants, que vont faire les éventuels conseils auxquels ils vont travailler, c'est comment nous allons le faire. Et la vraie question, elle est là, en fait. Je comprends que, à la fin de l'histoire, sur TUI ou sur Bridgestone ou sur d'autres, je ne sais pas, le résultat fait que les gens perdent le boulot, mais c'est les conditions dans lesquelles les choses se font. Et je ne suis pas convaincu que ce qu'on entend depuis ce matin, et je vous parle d'expérience pour avoir eu dans ma carrière à mener ce genre de choses, je ne suis pas certain que créer de la tension supplémentaire, là, il y en a beaucoup, c'est la meilleure manière de trouver.
Parce que
la solution,
la solution,
elle sera trouvée dans l'entreprise par un vrai dialogue social qui est très difficile à construire.
Oui, Jean-Christophe Alquier. D'autant plus que les prises de parole des politiques depuis ce matin ne sont que de la posture. Parce que d'une certaine manière...
C'est du blabla.
Ils sont totalement désarmés, souhaitaient-ils l'être, ils sont totalement désarmés face à une décision d'entreprise qui respecte le droit social français, jusqu'à preuve du contraire. On va peut-être nous expliquer que Bridgestone n'a pas conduit ce plan social ou la préparation de cette fermeture d'usine dans les règles du droit social français, mais cela m'étonnerait. Donc, ils sont totalement impuissants. Ce qui est regrettable, pour revenir à la question de la brutalité, c'est au fond le grand archaïsme en France du dialogue social. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation dans laquelle les salariés sont confiants, inquiets, peu importe, voient vivre leur entreprise, et du jour au lendemain, on leur annonce qu'il faut la fermer, qu'il faut procéder à des licenciements, sans qu'ils aient véritablement été informés au fil de l'eau, finalement, des difficultés de l'entreprise. Pour terminer, juste Thomas, un mot. Les réactions des politiques, aussi bien d'ailleurs des politiques nationaux que des politiques locaux, et je vais rebondir sur les propos de Xavier Bertrand. Il parle d'un assassinat prémédité. S'il était prémédité, c'est qu'il savait qu'il était en préparation. Qu'a-t-il fait jusqu'au moment de l'annonce pour empêcher la fermeture de cette usine?
Jean-Luc, quand vous entendez ça, vous, chez Bridgestone, qu'est-ce que vous dites?
Écoutez, moi, quand on parle de social actuellement, j'irais plutôt de violence sociale, de violence du capital. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il y a un moment, on parle de 860 personnes, des personnes qui vont certainement, je vais dire, éclater. J'ai su hier, en fin de compte, un gamin qui a téléphoné à son père comme quoi son usine fermée. Donc, pour vous dire un peu la violence quand même. Alors, à contrario, ce qui est grave quand même, c'est que quand vous prenez, je vais dire, les chiffres, des économistes, il y a quand même 151% d'importation de pneumatiques en France, quoi. Donc, il y a un moment, ces pneus, on peut peut-être les faire en France, quoi. Il y a un moment, c'est bon, le dumping social, faut peut-être arrêter,
Benoît,
un bouclier anti-dumping social.
C'est intéressant parce qu'il y a quand même une incompréhension majeure à chaque fois. Et c'est ce qui donne, et ce qui vous donne, et vous, aux entreprises, cette image de brutalité.
D'empreinte carbone. Il faudrait peut-être commencer à réagir, quoi.
Alors, ça, c'est ce que vient de dire Jean-Luc, qui est très important. C'est-à-dire que le sujet, quand vous êtes confronté à ça, parce que vous dites que le dialogue social, en fait, il n'a pas vraiment commencé.
Non,
il y a une décision d'entreprise qui a été donnée, et maintenant, le dialogue social doit commencer. C'est le premier point.
Non, mais vous, dans votre dans votre travail, est-ce qu'on vous dit, bon, écoute, voilà, on a ce site-là qui pose problème, une fois c'est à Béthune, une fois c'est à Maubeuge, une fois c'est ailleurs, écoute, dis-nous ce qu'il faut liquider pour que ça aille bien, et puis on y va. Si c'est brutal, c'est pas grave.
C'est un peu
l'image de film qu'on peut avoir parfois.
C'est pas vrai, ça n'existe pas. Sincèrement, c'est pas vrai. Moi, ça fait 20 ans, j'ai été DRH pendant 20 ans, si vous voulez. Donc, je vais vous dire, c'est pas un problème de cynisme. vous pouvez en avoir ici ou là. Mais globalement, comment ça se passe? Vous prenez, il y a une décision qui est prise pour des motifs rationnels. Je rappelle d'ailleurs que pour faire valider un plan en France, vous devez démontrer à l'administration qu'il est juridiquement et économiquement justifié. Premier point. Deuxième point, il existe une loi qui s'appelle la loi Florange, de l'époque de Florange, qui fait que dans un cas comme celui-là de fermeture d'usine, l'entreprise ne peut pas déclencher de plan tant qu'elle n'a pas enclenché un système de reprise. Et puis la troisième phase, et pour répondre vraiment présent à votre question, qu'est-ce que fait le DRH à ce moment-là? D'abord, il a souvent été en amont. Il y a une décision qui est prise pour des raisons. Ces raisons, elles ne sont pas que économiques, elles sont stratégiques. Il faut pouvoir expliquer aux gens pourquoi on prend une décision, et après... Et le droit français a beaucoup évolué depuis 2-3 ans sur ce sujet, fort heureusement. Vous avez tout un tas de dispositifs qui vous permettent, sans changer la décision finale, je le comprends, mais qui vous permettent de créer des conditions les plus protectrices pour les salariés. C'est souvent ça qui arrive, mais ça, c'est du dialogue social assez long. Et aujourd'hui, on est dans l'émotion totale, comme si...
Mais je le comprends.
Non, mais je ne parle pas des gens qui sont concernés, je parle des politiques qui parlent. Et donc, voilà, simplement, il y a un travail qui va être fait, il y a des dispositifs de reclassement, des dispositifs de protection. C'est vrai que la décision, elle est très dure.
Je crois que Sandrine veut réagir.
Oui, moi, j'aimerais bien dire qu'on est dans la réflexion, etc. C'est long. Alors, pour nous, ça n'a pas été long. Le 17 juin, donc juste avant les vacances scolaires de juillet, août, où, entre autres, tous les salariés, les représentants des personnels pouvaient aussi prendre des congés. Donc, ça a été 2 mois qui ont été bâclés. Ça a été de la visio avec notre PDG qui est installé au Maroc. Et septembre, et on a un avis qui va être rendu au mois d'octobre. Donc, c'est quand même ultra rapide. Enfin, et en plus, nous, on est une entreprise de tourisme, donc on est quand même le numéro 1 mondial du tourisme. On est les seuls aujourd'hui à faire un PSE. Les autres, pour l'instant, profitent quand même donc du chômage partiel, et c'est bien normal pour faire tenir aussi et voir comment la situation va évoluer. Pour l'instant, personne n'a d'idée sur la durée de tout ça. Mais en tout cas, ils préservent malgré tout l'emploi. Aujourd'hui, nous, c'est pas notre cas. Bon, on préserve pas.
Et c'est vrai qu'on peut se poser la question sur un éventuel opportunisme épidémique, hein, comme on le dit parfois, avec des entreprises qui profiteraient là de la situation sanitaire pour dire allez, on en profite, on fait le ménage. On marque une pause et on se retrouve juste après.
RTL Soir.
Le monde tel qu'il est.